Jean de La Fontaine, Adonis. Je n'ai pas entrepris de chanter dans ses vers Rome ni ses enfants vainqueurs de l'univers, ni les fameuses tours qu'Hector ne put défendre, ni les combats des dieux aux rives du Scamandre. Ces sujets sont trop hauts et je manque de voix. Je n'ai jamais chanté que l'ombrage des bois, Flore, Écho, les zéphyrs et leurs molles haleines, le vert tapis des prés, l'argent des fontaines. C'est parmi les forêts qu'a vécu mon héros, c'est dans les bois qu'amour a troublé son repos. Ma muse en sa faveur de myrte séparée, j'ai voulu célébrer l'amant de Cythérée, Adonis, dont la vie eut des termes si courts, qui fut pleuré des ris, qui fut plein des amours. Aminte, c'est à vous que j'offre cet ouvrage. Mes chansons et mes vœux, tout vous doit rendre hommage. Trop heureux si j'osais compter à l'univers les tourments infinis que pour vous j'ai souffert. Quand vous me permettrez de chanter votre gloire, quand vos yeux, renommés par plus d'une victoire, me laisseront vanter le pouvoir de leurs traits et l'empire d'amour accru par vos attraits, je vous peindrai si belle et si pleine de charme que chacun bénira le sujet de mes larmes. Voilà l'unique but ou tant de mes souhaits. Cependant, recevez le don que je vous fais, ne le dédaignez pas, lisez cette aventure dont, pour vous divertir, j'ai tracé la peinture. Aux moments idaliens, un bois délicieux de ces arbres chenus semble toucher les cieux. Sous ces ombrages verts loge la solitude. Là, le jeune Adonis, exempt d'inquiétude, loin du bruit des cités, s'exerçait à chasser, ne croyant pas qu'amour pût jamais l'y blesser. À peine son menton d'un mol duvet sombrage, qu'aux plus fiers animaux il montre son courage. Ce n'est pas le seul don qu'il ait reçu des cieux, il semble être formé pour le plaisir des yeux. Qu'on ne nous vante point le ravisseur d'Hélène, ni celui qui jadis aimait une ombre vaine, ni tant d'autres héros fameux par leurs appâts. Tous ont scellé le prix au fils de Cynira. Déjà la renommée, en naissant inconnue, nymphe qui cache enfin sa tête dans la nue, par un charmant récit amusant l'univers, va parler d'Adonis à 100 peuples divers, à ceux qui sont sous l'ours, aux voisins de l'aurore, aux filles du sarmate, aux pucelles du mort. Paphos sur ses autels le voit presque élevé, et le cœur de Vénus ne sait où se sauver. L'image du héros qu'elle a toujours présente verse au fond de son âme une ardeur violente. Elle invoque son fils, elle implore ses traits, et tâche d'assembler tout ce qu'elle a d'attrait. Jamais on ne lui vit un tel dessein de plaire. Rien ne lui semble bien. Les grâces ont beau faire, enfin, s'accompagnant des plus discrets amours, aux monts idaliens, elle dresse son cours. Son char, qui transe en l'air de longs traits de lumière, a bientôt achevé l'amoureuse carrière. Elle le trouve Adonis, près des bords d'un ruisseau, couché sur des gazons, il rêve au bruit de l'eau. Il ne voit presque pas l'onde qu'il considère. Mais l'éclat des beaux yeux qu'on adore en Cythère l'a bientôt retiré d'un pensée si profond. Cet objet le surprend, l'étonne et le confond. Il admire les traits de la fille de l'onde. Un long tissu de fleurs ornant sa tresse blonde avait abandonné ses cheveux aux zéphyrs. Son écharpe, qui vole au gré de leurs soupirs, laisse voir les trésors de sa gorge d'albâtre. Jadis, en cet état, Mars en fut idolâtre, quand au champ de l'Olympe, on célébra des jeux pour les titans défaits par son bras malheureux. Rien ne manque à Vénus, ni les lys, ni les roses, ni le mélange exquis des plus aimables choses, ni ce charme secret dont l'œil est enchanté, ni la grâce plus belle encore que la beauté. Tel on vous voit, Arminte, une glace fidèle vous peut de tous ses traits présenter un modèle. Et s'il fallait juger de l'objet le plus doux, le sort serait douteux entre Vénus et vous. Tandis que le héros admire Cythérée, elle rend par ses mots son âme rassurée. Trop aimable mortel, ne crains point mon aspect, que de la part d'amour rien ne te soit suspect. En ces lieux écartés, c'est lui seul qui m'amène. Le ciel est ma patrie et Paphos mon domaine. Je les quitte pour toi, vois, si tu veux m'aimer. Le transport d'Adonis ne se peut exprimer. « Ô Dieu ! » s'écria-t-il, « n'est-ce point quelque songe ? Puis-je embrasser l'erreur où ce discours me plonge ? Charmante déité, vous dois-je ajouter foi ? Quoi, vous quittez les cieux et les quittez pour moi ? Il me serait permis d'aimer une immortelle ? Amour rend ses sujets tous égaux, lui dit-elle. La beauté dont les traits mêmes aux dieux sont si doux est quelque chose encore de plus divin que nous. Nous aimons, ainsi que toute chose. Le pouvoir de mon fils de moi-même dispose. Tout est né pour aimer. » Ainsi parle Vénus, et ses yeux éloquents en disent beaucoup plus. Il persuade mieux que ce qu'a dit sa bouche. Ses regards, truchement de l'ardeur qui la touche, sa beauté souveraine et les traits de son fils ont contraint Mars d'aimer, que peut faire Adonis? Il aime, il sent couler un brasier dans ses veines. Les plaisirs qu'il attend sont accrus par ses peines. Il désire, il espère, il craint, il sent un mal à qui les plus grands biens n'ont rien qui soit égal. Vénus s'en aperçoit et fin qu'elle l'ignore. Tous deux de leur amour semblent douter encore. Et pour s'en assurer, chacun de ses amants, mille fois en un jour, fait les mêmes serments. Quelles sont les douleurs quand ces bois ils goûtèrent? Ô vous de qui les voient jusqu'aux astres montèrent, lorsque par vos chansons tout l'univers charmé vous ouïe célébrer ce couple bien-aimé, grands et nobles esprits, chantres incomparables, mêlez parmi ces sons vos accords admirables. Écho, qui ne tait rien, vous compta ces amours, vous les vites graves au fond des entresourds, faites que j'en retrouve au temple de mémoire les monuments sacrés, source de votre gloire, et que, n'étant formés sur vos savantes mains, ces vers puissent passer au dernier des humains. Tout ce qui naît de doux en amoureux empire, quand d'une égale ardeur l'un pour l'autre on soupire, et que, de la contrainte ayant banni les lois, on ne se peut assurer au silence des bois, jour devenu moment, moment filet de soie, agréable soupir, pleurs, enfants de la joie, vœux, serments et regards, transports, ravissements, mélange dont se fait le bonheur des amants, tout, par ce couple heureux, fut leur mis en usage. Tantôt ils choisissaient l'épaisseur d'un ombrage, là, sous des chênes vieux, où leurs chiffres gravés se sont avec les troncs accrus et conservés, mollement étendus, ils consumaient les heures, sans avoir pour témoin en ces sombres demeures que les chantres des bois, pour confident qu'amour qui seul guidait leurs pas en cet heureux séjour. Tantôt, sur des sapis d'herbe tendre et sacrée, Adonis s'endormait auprès de Cythérée, dont les yeux, enivrés par des charmes puissants, attachaient au héros leur regard languissant. Bien souvent, ils chantaient les douceurs de leur peine, et quelquefois, assis sur le bord des fontaines, tandis que 100 cailloux luttant à chaque bond suivaient les longs replis du cristal vagabond. « Voyez, disait Vénus, ces ruisseaux et leurs courses, ainsi jamais le temps leur remonte à sa source. Vainement pour les dieux, il fuit d'un pas léger. Mais vous autres, mortels, le devez ménager, consacrant à l'amour la saison la plus belle. » Souvent, pour divertir leur ardeur mutuelle, Il dansait aux chansons de nymphes entourées. Combien de fois la lune, alors pas éclairée, et couvrant de ses rays les mailles d'une prairie, les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie. Combien de fois le jour a vu des entre-creux, complices des larcins de ce couple amoureux. Mais n'entreprenons pas d'ôter le voile sombre de ces plaisirs amis du silence et de l'ombre. Il est temps de passer au funeste moment où la triste Vénus doit quitter son amant. Du bruit de ses amours, Paphos est alarmé. On dit qu'au fond d'un bois, la déesse charmée, inutile aux mortels et sans soin de leurs vœux, renonce au culte vain de ses temples fameux. Pour dissiper ce bruit, la reine de Cythère veut quitter pour un temps ce séjour solitaire. Mais que ce cruel dessein lui donne de douleur. Un jour que son amant la voyait tout en pleurs, « Déesse, lui dit-il, qui causait mes alarmes? Quel amour si profond vous oblige à ces larmes? Vous aurais-je offensé? Ou ne m'aimez-vous plus ?»« Ah, dit-elle, quittez ces soupçons superflus. Adonis tâcherait en vain de me déplaire. Ses pleurs naissent d'amour et non pas de colère. D'un déplaisir secret, mon cœur se sent atteint. Il faut que je vous quitte, et le sort m'y contraint. Il le faut. Vous pleurez. Du moins, mon absence, conservez-moi toujours un cœur plein de constance. Ne pensez qu'à moi seul, et qu'un indigne choix ne vous lâche point aux nymphes de ces bois. Leur faire après les miens ont pour vous de la honte. Surtout de votre sang, il me faut rendre compte. Ne chassez point aux ours, aux sangliers, aux lions. Gardez-vous d'irriter tous ces monstres félons. Laissez les animaux, qui, fiers et pleins de rage, ne cherchent leur salut qu'en montant leur courage. Les daims et les chevreuils, en fuyant devant vous, donneront à vos sens des plaisirs bien plus doux. Je vous aime. Et ma crainte a de ses justes causes. Il sied bien en amour de craindre toute chose. Que deviendrais-je, hélas, si le sort rigoureux me privait pour jamais de l'objet de mes vœux? Là, se fondant en pleurs, on voit croître ses charmes. Adonis lui répond seulement par des larmes. Elle ne peut partir de ces aimables lieux. Cent humides baisers achèvent ses adieux. Ô vous, triste plaisir où leur âme se noie, vains et derniers efforts d'une imparfaite joie, moment pour qui le sort rend leur voix superflue, délicieux moment, vous ne reviendrez plus. Adonis voit un char descendre de la nue, Cythérée y montant disparaît à sa vue. C'est en vain que des yeux il la suit dans les airs. Rien ne s'offre à ses sens que l'horreur des déserts. Il appelle Vénus, fait retentir les bois, et n'entend qu'un écho qui répond à sa voix. C'est lors que, repassant dans sa triste mémoire ce que naguère il eut de plaisir et de gloire, il tâche à rappeler ce bonheur sans pareil. Semblable à ces amants trompés par le sommeil, qui rappellent en vain pendant la nuit obscure le souvenir confus d'une douce imposture. Tel Adonis repense à l'heure qu'il a perdue. Il le compte aux forêts et n'est point entendu. Tout ce qui l'environne est privé de tendresse. Et, soit que des douleurs la nuit enchanteresse plonge les malheureux au suc de ses pavots, soit que l'astre du jour ramène leurs travaux, Adonis sans relâche aux plaintes s'abandonne. De sanglots redoublés sa demeure résonne. Cet amant toujours pleure et toujours les zéphyrs, en volant vers Paphos, sont chargés de soupirs. la molle oisiveté, la triste solitude, poison dont il nourrit sa noire inquiétude, le livre tout entier au vinre souvenir qui le vient malgré lui sans cesse entretenir. Enfin, pour divertir l'ennui qui le possède, on lui dit que la chasse est un puissant remède. Dans ces lieux pleins de paix, seul avec l'amour, ce plaisir occupait les héros d'alentour. Adonis les assemble et se plaint de l'outrage que ses champs ont reçu d'un sanglier plein de rage. Ce tyran des forêts porte partout l'effroi. Il ne peut rien souffrir de sûr autour de soi. L'avare laboureur se plaint à sa famille que sa dent a détruit l'espoir de la faucille. L'un craint pour ses vergers et l'autre pour ses guérets. Il foule aux pieds les dons de Flore et de Cérès, monstre énorme et cruel qui souille les fontaines, qui fait bruire les monts, qui désole les plaines, et sans craindre l'effort des voisins alarmés, s'apprête à recueillir les grains qu'ils ont semés. Tâchez de le surprendre et tentez l'impossible. Il habite en un fort et paix inaccessible. Tel on voit qu'un brigand fameux et redouté se cache après ses vols en un antre écarté, fait des champs d'alentour de vastes cimetières, ravage impunément des provinces entières, laisse gronder les lois, se rit de leur courroux et ne craint point la mort qu'il porte au sein de tous. L'épaisseur des forêts le dérobe au supplice. C'est ainsi que le monstre a ses bois pour complice. Mais le moment fatal est enfin arrivé, où malgré sa fureur en son sang abreuvé, des dégâts qu'il a faits, il va payer l'usure. Hélas, qu'il vendra cher sa mortelle blessure. Un matin, que l'aurore, au teint frais et riant, à peine avait ouvert les portes d'Orient, la jeunesse voisine autour du bois s'assemble. Jamais tant de héros ne s'étaient vus ensemble. Anténor, le premier, sort des bras du sommeil et vient au rendez-vous pour attendre le soleil. La déesse des bois n'est point si matinale. 100 fois il a surpris l'amante de Céphale et sa plaintive épouse a maudit 1000 fois les veneurs et les chiens, le gibier et les bois. Il est bientôt suivi du satrape Alcamène, dont le long attirail couvre toute la plaine. C'est en vain que ces gens se sont chargés de raies. Leur nombre est assez grand pour ceindre les forêts. On y voit arriver Bronte au cœur indomptable et le vieillard Capis, ce chasseur infatigable qui, depuis son jeune âge, ayant aimé les bois, rend les chiens et veneurs attentifs à sa voix. Si le jeune Adonis l'eût aussi voulu croire, il n'aurait pas sitôt traversé l'onde noire. Comment l'aurait-il cru, puisqu'en vain ses amours l'avaient sollicité d'avoir soin de ses jours? Par le beau Calion, la troupe est augmentée. Gilippe vient après, fils du riche Acanté. Le premier, pour tout bien, n'a que les dons du corps. L'autre, pour tous appas, possède des trésors. Tous deux aiment Chloris, et Chloris n'aime qu'elle. Ils sont pourtant parés des faveurs de la belle. Flègre à court et Mimas, palmyre aux blonds cheveux, le robuste Crantor aux bras durs et nerveux, le lycien Télame, Agénor de Carie, le vaillant Triptolème, honneur de la Syrie, Paphée expert à lutte, Mops à lancer le dard, Lieste, Palémon, Glauque, Ilus, Hamilcar, 100 autres que je tais, troupe épaisse et confuse, mais peut-on oublier la charmante Arétuse, Arétuse au teint vif, aux yeux doux et perçants, qui pour le blond palmyre a des feux innocents? On ne l'instruit point à manier à la laine, courir dans les forêts, suivre un cerf dans la plaine, ce sont tous ses plaisirs, heureuses, si son cœur eût pu se garantir d'amour comme de peur. On la voit arriver sur un cheval superbe, dont à peine les pas sont imprimés sur l'herbe. D'une charge si belle, il semble glorieux. Et comme elle, Adonis attire tous les yeux. D'une faute fatale, déjà son front s'allume. Il marche avec un air plus fier que de coutume. Tel Apollon marchait quand l'énorme Python l'obligea de quitter l'ombre de l'Hélicon. Par l'ordre de Capis, la troupe se partage. De tant de gens épars, le nombreux équipage, leurs cris, l'aboi des chiens, les cors mêlés de voix, annoncent l'épouvante aux hôtes de ces bois. Le ciel en retentit, les échos se confondent, de leur palais voûté, tous ensemble, ils répondent. Les cerfs, au moindre bruit, à se sauver Cipron, les timides troupeaux des daims au large front, sont contraints de quitter leur demeure secrète. Le bois n'a plus pour eux là ses sombres retraites. On court dans les sentiers, on traverse les bois. Chacun, pour les percer, redouble ses efforts. Au fond du bois croupit une eau dormante et sale. Là, le monstre se plaît aux vapeurs qu'elle exhale. Ici vautre sans cesse, et chérit un séjour jusqu'alors ignoré des mortels et du jour. On ne l'en peut chasser. Du souci de sa vie, bien plus à sa valeur qu'à sa fuite, il se fit. Les cors ont beau sonner, l'air a beau retentir, rien ne saurait encore l'obliger à partir. Cependant, les destins hâtent sa dernière heure. Dryope, la première, évente sa demeure. Les autres chiens, par elle aussitôt avertis, répondent à sa voix, frappent l'air de leurs cris, entraînent les chasseurs, abandonnent leur quête. Toute la meute accourt et vient lancer la bête. S'anime en la voyant, redouble son ardeur, mais le fier animal n'a point encore de peur. Le coursier d'Adonis, né sur les bords d'Uxante, ne peut plus retenir son ardeur violente. Une jument d'Ida l'engendra d'un des vents. Les forêts l'ont nourri pendant ses premiers ans. Il ne craint point des monts les puissantes barrières, ni aspect étonnant des profondes rivières, ni le penchant affreux des rocs et des vallons. D'haleine, en le suivant, manquent les aquilons. Adonis le retient pour mieux suivre la chasse. Enfin, le monstre est joint par deux chiens dont la race vient du Vite-les-Passes, qui fut l'unique prix des larmes dont Céphale apaisa sa Procrise. Ces deux chiens sont Mélampe et l'ardente Sylvage. Leur sort fut différent, mais non pas leur courage. Par l'homicide d'un, Mélampe est mis à mort. Sylvage, au poil de tigre, attendait même sort. Lorsque l'un des chasseurs se présente à la bête, sur lui tourne aussitôt l'effort de la tempête. Il connaît, mais trop tard, qu'il est trop avancé. Son visage pâlit, son sang devient glacé. L'image du trépas en ses yeux est empreinte. Sur le teint des mourants, la mort n'est pas mieux peinte. Sa peur est pourtant vaine, et sans être blessé du monstre qui le heurte, il se sent terrassé. Nisus, ayant cherché son salut sur un arbre, rit de voir ce chasseur plus froid que l'est un marbre, mais lui-même a sujet de trembler à son tour. Le sanglier coupe l'arbre, et les lieux d'alentour résonnent du fracas dont sa chute est suivie. Nisus encore en l'air fait des vœux pour sa vie. Compterai-je en détail tant de puissants efforts, des chiens et des chasseurs de différentes morts, leurs exploits avec eux, cachés sous l'ombre noire? Seul vous les savez, ô fille de mémoire. Venez donc m'inspirer, et conduisant ma voix, faites-moi dignement célébrer ses exploits. Deux lys dans tes nords, Lycoris et Nymphale, veulent qu'aux yeux de tous leur ardeur se signale. Le vieux Capis lui-même eut soin de les dresser. Au sanglier, l'un et l'autre est prêt à se lancer. Un matin les devance et se jette en leur place. C'est Phlégon qui souvent au loup donne la chasse. Armé d'un fort collier qu'on a semé de clous, à l'oreille du monstre il s'attache en courroux. Ses flancs sont décousus, et pour comble de gloire il combat en mourant, et ne veut point lâcher l'endroit où sur le monstre il vient de s'attacher. Cependant le sanglier passe à l'autre trophée. Combien voit-on sous lui de trames étouffées? Combien en coupe-t-il? Que d'hommes terrassés, que de chiens abattus, mourant, morts et blessés. Chevaux, arbres, chasseurs, tout éprouve sa rage. Tel passe un tourbillon messager de l'orage, tel descend la foudre, et d'un soudain fracas, brise, brûle, détruit, met les rochers à bas. Crantor, d'un bras nerveux, lance un dard à la bête. Elle en frémit de rage, écume, et tourne tête, et son poil hérissé semble de toutes parts présenter aux chasseurs une forêt de dards. Il n'en a point pourtant le cœur touché de crainte. Par deux fois du sanglier, il évite la teinte. Deux fois le monstre passe, et ne brise en passant que les pieux dont Crantor se couvre en cet instant. Il revient aux chasseurs. La fuite est inutile. Crantor, aux environs, n'aperçoit point d'asile. En vain du coup fatal, il veut se détourner. Ne pouvant que mourir, il meurt sans s'étonner. Pour punir son vainqueur, toute la troupe approche. L'un lui présente un dard, l'autre un trait lui décoche. Le fer ou se rebouche ou ne fait qu'entamer sa peau que d'un poil dur le ciel voulut armer. Il se lance aux épieux, il prévient leur atteinte. Plus le péril est grand, moins il montre de crainte. C'est ainsi qu'un guerrier, pressé de toutes parts, ne songe qu'à périr au milieu des hasards. De soldats entassés, son bras jonche la terre. Il semble qu'en lui seul se termine la guerre. Certain de succomber, il fait pourtant effort, non pour ne point mourir, mais pour se venger sa mort. Tel est plus valeureux, le monstre se présente. Plus le nombre s'accroît, plus sa fureur augmente. L'un les flancs ouverts, l'autre ses reins rompus. Il marche et foule aux pieds de ceux qui sont battus. La troupe des chasseurs en devient moins hardie. L'ardeur qu'il témoignait est bientôt refroidie. Palmyre, toutefois, s'avance malgré tout. Ce n'est pas du sanglier que son cœur craint les coups. Arétus lui fut jadis plus redoutable. Jadis sourde à ses vœux, mais alors favorable, elle voit son amant poussé d'un beau désir, et le voit avec crainte autant qu'avec plaisir. « Quoi, mes bras, lui dit-il, sont conduits par les vôtres, et vous me verriez fuir aussi bien que les autres ? Non, non, pour redouter le monstre et son effort, vos yeux m'ont trop appris à mépriser la mort. » Il dit, et ce fut tout. L'effet suit la parole. Il ne va pas au monstre, il y court, il y vole, tourne de tous côtés, esquive en l'approchant, hausse le bras vengeur, et d'un glaive tranchant s'efforce de punir le monstre de ses crimes. Sa dent allait d'un coup s'immoler de victime. L'une eût senti le mal que l'autre en eût reçu, si son cruel espoir n'eût point été déçu. Entre Palmyre et lui, l'Amazone se lance. Palmyre craint pour elle et court à sa défense. Le sanglier ne sait plus sur qui de se venger. Toutefois, Palmyre, il porte un coup léger. Léger pour le héros, profond pour son amante. On l'emporte. Elle suit inquiète et tremblante. Le coup est sans danger. Cependant, les esprits, en foule avec le sang de leur prison sortie, laissent faire à Palmyre un effort inutile. Il devient aussitôt pâle, froid, immobile. Sa raison n'agit plus. Son œil se sent voilé. Heureux s'il pouvait voir les pleurs qu'il fait couler. La moitié des chasseurs, à le plaindre employé, suit la triste arétuse en ses larmes noyées. Non loin de cet endroit, un ruisseau fait son cours. Adonis s'y repose après mille détours. Les nymphes, de qui l'œil voit les choses futures, l'avaient fait égarer hors des routes obscures. Le son des cors ne perd pas un charme inconnu. C'est en vain que leur bruit incessant s'est venu. Ne sachant où porter sa course vagabonde, il s'arrête en passant au cristal de cette onde. Mais les nymphes ont beau s'opposer au destin, contre un ordre fatal, tous leurs charmes sont vains. Adonis, en ce lieu, voit apporter Palmyre. Ce spectacle l'émeut et redouble son ire. Attarder plus longtemps ne peut l'obliger. Il regarde la gloire et non pas le danger. Il part, se fait guider et rencontre le carnage. Et cependant le sanglier s'était fait un passage et courant vers son fort, il se lançait parfois aux chiens qui dans le ciel poussaient de vains abois. On ne l'ose approcher. Tous les traits qu'on lui lance, étant poussés de loin, perdent leur violence. Le héros seul s'avance et craint peu son courroux. Mais Capis, l'arrêtant, s'écrie « Où courez-vous? Quelle bouillante ardeur au péril vous engage? Il est besoin de ruse et non pas de courage. N'avancez pas, fuyez !» Il vient à vous, ô Dieu! Adonis, sans répondre, au ciel lève les yeux. Déesse, se dit-il, qu'adore ma pensée, si je cours au péril, n'en sois point offensé. Guide plutôt mon bras, redouble mon effort, fais que ce trait lancé donne au monstre la mort. À ces mots, dans les airs, le trait se fait entendre. À l'endroit où le monstre a la peau la plus tendre, il en reçoit le coup, se sent ouvrir les flancs, de rage et de douleur frémit, grince les dents, rappelle sa fureur et court à la vengeance. Plein d'ardeur et léger, Adonis le devance. On craint pour le héros, mais il sait éviter les coups qu'à cet abord la dent lui veut porter. Tout ce que peut l'adresse est enjoint au courage. Ce que pour se venger tente l'aveugle rage se vit alors remarquer par des chasseurs d'épars. Tous ensemble, aux sangliers, voudraient lancer leur dard. Mais peut-être Adonis en recevrait la teinte. Du cruel animal ayant chassé la crainte, en foule ils courent tous droit aux fiers assaillants. Courez! Courez, chassez un peu trop vaillant, détournez de vos mains un éternel reproche. Vos efforts sont trop lents, déjà le coup approche. Que n'en ai-je oublié les funestes moments? Pourquoi n'ont pas péri ces tristes monuments? Faut-il qu'à nos neveux j'en raconte l'histoire? Enfin, de ces forêts l'ornement et la gloire, le plus beau des mortels, l'amour de tous les yeux, par le pouvoir du sort ensanglante ses lieux. Le cruel animal s'enferre dans ses armes, et d'un coup aussitôt il détruit mille charmes. Ses derniers attentats ne sont pas impunis, il sent son cœur percé de l'épieu d'Adonis, et lui, poussant au flanc sa défense cruelle, meurt. Et porte en mourant une atteinte mortelle. D'un sang impur et noir, il purge l'univers. Ses yeux d'un somme dur sont pressés et couverts. Il demeure plongé dans la nuit la plus noire. Et le vainqueur à peine a connu sa victoire, jouit de la vengeance et goûté ses transports, qu'il sent un froid démon s'emparer de son corps. De ses yeux si brillants, la lumière est éteinte. On ne voit plus l'éclat dont sa bouche était peinte. On n'en voit que les traits, et l'aveugle trépas parcourt tous les endroits où régnait tant d'appât. Ainsi l'honneur des prés, les fleurs, présents de flore, filles du blond soleil et des pleurs de l'aurore, si la faux les atteint, perdent en un moment de leurs vives couleurs les plus rares ornements. La troupe des chasseurs, aux héros accourus, par des cris redoublés lui fait ouvrir la vue. Il cherche encore un coup la lumière des cieux, il pousse un long soupir, il referme les yeux, et le dernier moment qui retient sa belle âme s'emploie au souvenir de l'objet qui l'enflamme. On fait pour l'arrêter des efforts superflus, elle s'envole aux airs, le corps ne la sent plus. Prêtez-moi des soupirs, ô vent, qui sur vos ailes porta de la Vénus de si tristes nouvelles. Elle accourt aussitôt, et voyant son amant, remplit les environs d'un vain gémissement. Telle sur un ormeau se plaint la tourterelle, quand l'adroit giboyeur, d'une main cruelle, fait mourir à ses yeux l'objet de ses amours. Elle passe à sémir, et les nuits et les jours, de moment en moment renouvelant sa plainte, sans que d'aucun remords la parque soit atteinte. Tout ce bruit, quoique juste au vent, est répandu. L'enfer ne lui rend point le bien qu'elle a perdu. On ne le peut fléchir. Les cris dont il est cause ne font point qu'à nos voeux, ils rendent quelque chose. Vénus l'implore en vain par de tristes accents. Son désespoir éclate en regrets impuissants. Ses cheveux sont épars, ses yeux noyés de larmes. Sous d'humides torrents, ils resserrent leur charme, comme on voit au printemps les beautés du soleil, cachées sous des vapeurs leur éclat sans pareil. Après 1000 sanglots, enfin elle s'écrie : mon amour n'a donc pu te faire aimer la vie. Tu me quittes, cruel. Au moins ouvre les yeux. Montre-toi plus sensible à mes tristes adieux. Vois de quelle douleur ton amante est atteinte. Hélas, j'ai beau crier, il est sourd à ma plainte. Une éternelle nuit l'oblige à me quitter. Mes pleurs ni mes soupirs ne peuvent l'arrêter. Encore, si je pouvais le suivre en ces lieux sombres, que ne m'est-il permis d'errer parmi les ombres? Destin, si vous vouliez le voir sitôt périr, fallait-il m'obliger à ne jamais mourir? Malheureuse Vénus, que te servent tes charmes? Vante-toi maintenant du pouvoir de tes charmes. Ils n'ont pu du trépas exempter les amours. Tu vois qu'ils n'ont pu même en prolonger les jours. Je ne demandais pas que la parque cruelle prît à filer leur trame une peine éternelle. Bien loin que mon pouvoir l'empêcha de finir, je demande un moment, et ne puis l'obtenir. Noire divinité du ténébreux empire, dont le pouvoir s'étend sur tout ce qui respire, roi des peuples légers, souffrez que mon amant de son triste départ me console un moment. Vous ne le perdrez point. Le trésor que je pleure ornera tôt ou tard votre sombre demeure. Quoi, vous me refusez un présent si léger? Cruel, souvenez-vous qu'amour m'en peut venger. Et vous, antre caché, favorable retraite où nos cœurs ont goûté les douceurs si secrètes, grotte qui tant de fois avait vu mon amant me raconter des yeux son fidèle tourment, lieux amis du repos, demeure solitaire, qui d'un trésor si rare et pillé dispositaire, désert, rendez-le-moi. Deviez-vous avec lui nourrir chez vous le monstre, auteur de mon ennui? Vous ne répondez point. Adieu donc, ô belle âme, emporte chez les morts ce baiser tout de flamme. Je ne te verrai plus. Adieu, cher Adonis. Ainsi Vénus cessa. Les rochers, à ses cris, quittant leur dureté, répandirent des larmes. Zéphyr en soupira. Le jour voila ses charmes. D'un pas précipité sous les eaux, il s'enfuit et laissa dans ces lieux une profonde nuit.